écouter, télécharger et partager toutes les émissions du OFF sur www.osmose-radio.fr.
Osmose Radio.
Osmose.
La web radio du OFF.
Bonjour à tous et bienvenue sur Osmose Radio dans la couleur des planches. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 14 juillet, jour de la fête nationale de la République française. Et dans quelques jours, une autre fête se prépare. Le 20 juillet, nous célébrerons la 20e édition du Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné, dirigé par Marie-Pierre Bousquet et Greg Germain. Un lieu placé sous le signe de la diversité, où suivre la programmation de ce théâtre et découvrir ses spectacles au fil des festivals. C'est comme effectuer un véritable tour du monde, de la Belgique à la Guadeloupe, en passant par la Martinique, la Guyane, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Cuba, la Nouvelle-Calédonie et j'en passe. Aujourd'hui, on pose nos valises à Avignon et on accueille Greg Germain et Sylvie Chalaille. Bonjour.
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 Germain, cette chapelle du Verbe Incarné, c'est un monument historique qui est classé, qui a été mis à votre disposition par la ville d'Avignon en 98. C'est une année où vous décidez de créer le TOMA, Théâtre d'Outre-mer en Avignon. Comment est apparue cette nécessité de créer un lieu de ressources et de rencontres pour les créateurs d'Outre-mer dans l'Hexagone ?
En posant la question, Savannah Massé, vous avez répondu exactement, parce qu'ils étaient absents, parce que c'est une ambition citoyenne, parce que ni le ministère de la Culture, ni les autres ministères qui doivent s'occuper des Outre-mer n'avaient songé un instant que les Outre-mer pouvaient aussi participer à la grande fête du théâtre français. J'ai trouvé que ça manquait et nous avons décidé, dans un acte parfaitement citoyen, d'aller voir la municipalité, de lui proposer une convention. Et nous avons trouvé ce lieu fabuleux au nom prédestiné. Chapelle du Verbe Incarné, qui a été fondée en 1635, cet ordre, je le rappelle, par Jeanne César de Battel à la Contre-Réforme.
Alors vous, Sylvie Chalaille, bonjour. Vous êtes directrice de recherche en théâtre à la Sorbonne et vous dirigez aussi le laboratoire des scènes francophones de l'écriture de l'altérité. À quel moment et pourquoi est-ce que vous avez rejoint l'aventure du TOMA ?
Je crois que j'ai rejoint l'aventure du TOMA très tôt, dès le départ en fait, dès le démarrage et même peut-être un peu dans l'esprit avant les années qui ont précédé, puisque j'avais retrouvé Greg au Festival d'Avignon où il jouait une pièce à la place de l'horloge.
Et, de Derek Walcott.
Voilà, Derek Walcott. Et on avait parlé, on avait évoqué plein de choses. Et je pense qu'il y avait déjà ce désir chez Greg. Et du coup, j'arrive plus à me rappeler donc comment les choses se sont faites. Mais en tout cas, ce dont je me rappelle très bien, c'est que dès l'ouverture, et ça Greg en parlera certainement, dès l'ouverture, on a été présents. Parce qu'en fait, il y a eu aussi un concours de circonstances. Nous étions en Avignon avec, il y avait Kofi Kwaoulé, Olivier Barlet également. On travaillait sur un livre. Olivier Barlet est un spécialiste de cinéma. Moi, je m'intéressais au théâtre. Kofi est un auteur dramatique, ivoirien.
Majeur.
et avec Olivier, on se disait, mais il manque vraiment des espaces, à la fois des espaces de pensée, des espaces de critique de la création africaine, caribéenne, des Outre-mer. Il n'y a pas d'espace à la fois de visibilité, mais aussi de réflexion. Donc vraiment porter une critique sur ces œuvres, mais positive, qui leur donne une place dans le paysage de la création contemporaine. Ça n'existe pas et on a eu ce désir en fait de créer un support, une revue, ça a été Africulture. Et la naissance en fait de la Chapelle du Verbe Incarné avec toute l'activité qu'a menée Greg et Marie-Pierre pour y arriver, et de l'autre côté Africulture, c'était au même moment. Ça a été au même moment. Il y a une espèce de fusion qui a fait que je ne me souviens plus vraiment, mais en tout cas, dès le départ, j'ai vu les spectacles, j'étais présente et j'étais effectivement critique, dramatique sur les œuvres. œuvre, j'ai essayé de faire connaître ce qui se faisait à la chapelle le plus possible.
Alors c'est une grande aventure artistique, mais c'est aussi une aventure humaine, parce que Greg Germain, à l'époque, vous aviez instauré des chantiers écoles où des jeunes en situation d'exclusion sociale en Guadeloupe sont venus en fait rénover l'intérieur de la chapelle. Donc ça va vraiment au-delà d'une approche artistique, c'est une véritable passerelle vers l'outre-mer.
C'est toujours ce qu'on essaie de faire. Pour moi, le premier théâtre que chacun se joue, c'est celui de sa propre existence et de la mettre évidemment en relation avec les autres. C'est la raison pour laquelle je suis un des adeptes d'Antonin Artaud qui dit « le théâtre ne se fait pas dans d'inconcevables panthéons, c'est une façon de comprendre et d'exercer la vie ». On veut un théâtre, on trouve un lieu, il faut le transformer en théâtre. Il y a en Guadeloupe des gens qui sont en insertion, qui voudraient bien apprendre le métier de tailleur de pierre, de charpentier. Bon, pourquoi ne pas imaginer un chantier école sous les ordres des compagnons du Tour de France, validation des acquis pour que ces gens, au bout de 3 ans, puissent revenir chez eux en étant artisans, tailleurs de pierre, artisans. C'est une expérience assez unique et je crois que inédite, et je crois qu'elle ne s'est jamais reproduite malheureusement.
Ce qui est dommage. Sylvie, vous en parliez tout à l'heure, vous avez participé avec Africulture, donc qui est une revue qui est consacrée aux arts et à la culture en provenance d'Afrique et de ses diasporas, au lancement donc, de La Chapelle en 1997, donc cette revue devient partenaire du Thomas. Mais en 2000, vous participez également à la création de tables rondes de lecture autour de la question du théâtre et de l'immigration, de ce qu'était ou de ce qui est encore aujourd'hui d'être un acteur noir en France. C'est vrai qu'à l'époque, c'était des thèmes qui étaient très peu abordés, en fait.
C'était même des thèmes qui ne traversaient pas l'esprit, en fait, du monde médiatique ou de la recherche. C'est d'ailleurs très amusant de voir que depuis ces quelques dernières années, là, je dirais depuis à peu près 3 ans, on retrouve régulièrement des tables rondes autour de cette question de la diversité. Donc, la diversité sur la scène contemporaine, voilà, ça revient. Nous avions donc travaillé effectivement en 2000 à cette question déjà à Paris, et ça nous paraissait essentiel évidemment de lancer au sein de ce qu'on avait appelé les petits Thomas, les petits matins des donc des Thomas, les petits matins, parce que c'était difficile à 10h du matin de lancer ce genre de choses, mais c'était régulier et ça faisait que c'était un espace de parole, un espace d'échange, un espace aussi de témoignage, parce que beaucoup de choses ont besoin de se dire. On sait combien les traumatismes, finalement les douleurs, les choses qui sont difficiles à énoncer et qui participent de l'humiliation et des vexations régulières que les artistes en fait peuvent subir à cause de phénomènes de discrimination, tout simplement. Quand ils essayent de l'évoquer, une des grandes réponses dans notre France, c'est de dire « oui, mais quand même, ailleurs c'est plus grave » ou « tu crois qu'il y a du racisme en France ?» Et ces questions-là, finalement, ça fait quelque chose qui crée une espèce de peur, où les artistes ont peur d'en parler, en tout cas avaient vraiment peur d'en parler dans les années 2000 et avant les années 2000 encore plus. Donc ce qui fait que faire ces moments de parole, ces temps de parole, ça a permis aussi au moins de libérer, de s'exprimer, de témoigner, de raconter des tas d'anecdotes et de faire avancer peu à peu les choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, on bascule dans un autre phénomène, c'est qu'on en fait un sujet qu'on pense finalement un peu, je dirais, à la mode, et on veut tous réfléchir sur la diversité sur la scène contemporaine, mais je ne suis pas sûre enfin, que ça suffise, c'est-à-dire qu'il faut agir, quoi. Le fait de parler aujourd'hui n'est plus suffisant. Voilà,
oui,
discuter c'est bien, mais
effectivement, on parle beaucoup de diversité en essayant de rendre le thème un peu intelligent, alors que derrière, il n'y a pas forcément grand-chose. Je voulais vous faire réagir sur un texte, un extrait que vous connaissez bien, de La Chapelle de Kofi Kwaoulé. Tu vois, je l'ai fait graver à ton nom et ça s'appelle un théâtre. Comment peut-on tolérer ce siècle 21 au cœur de la vieille cité des papes? Ces gens sont vraiment... Je ne voudrais pas être grossier, mais de quelle hérésie ces gens qui n'ont même jamais fait, ces gens qui ne savent même pas, ces gens qui ne sont même pas, de quelle abjuration? Ça s'appelle la diversité.
Oui, c'est un des j'allais dire un des fondamentaux de la chapelle du Verbe incarné, de pouvoir réserver des espaces de parole le matin. Nous ne faisons pas du théâtre le matin, le théâtre se joue dans l'après-midi, mais le matin, on explique pourquoi c'est nécessaire, c'est important pour nous de faire du théâtre. Vous savez, Savannah Massé, la France, c'est un archipel. Et les Français ne le savent pas. Les Français pensent que la France est un simple hexagone qui vit encore comme vivait l'Europe quand elle dominait le monde. Or, c'est grâce à ces archipels, puisqu'il y a des Frances dans trois océans, qui baignent dans trois océans, qui sont sur presque tous les continents. Et nous savons bien que cela est une chance pour notre pays. Je crois que les Outre-mer commencent à se rendre compte qu'ils sont une chance pour la France. Nous souhaiterions que les Français de l'Hexagone puissent se rendre compte que l'Outre-mer est une vraie chance pour la France. Et c'est ce que, à travers ces petits matins du Thomas, ces pièces qui sont choisies parce qu'elles représentent quelque chose d'important, on ne fait pas du théâtre pouette-pouette, que je trouve, pour moi, il n'y a pas de genre théâtral mineur. À partir du moment où on arrive à faire entrer des gens dans une salle de spectacle, ça veut dire quelque chose. Et Avignon, pour cela, est extraordinaire parce que ça permet plusieurs choses pour un acteur, pour une compagnie, n'est-ce pas ? Au-delà de vendre son spectacle, c'est de croiser les regards avec le public. C'est la relation culturelle qu'il y a quand on distribue son tract avec quelqu'un qui passe le nez en l'air en mangeant une glace, qui était juste venu visiter le Palais des Papes et à qui on dit « Venez voir Jazz, par exemple ». Puisque je salue la présence d'Alexandre Zeff
qui nous rejoindra après justement pour parler de sa pièce,
qui est le metteur en scène de Jazz, qui est je crois qu'en France ou dans le monde, toutes les 6 minutes une femme est victime de violence, et c'est une façon aussi d'en parler au théâtre. Donc ces fondamentaux là étant posés le matin, c'était nécessaire de les poser à chaque fois. Et Sylvie a oublié de dire qu'au moment où nous avons commencé, la diversité, c'était un gros mot, vraiment. Oui.
Alors, en parlant de la programmation de votre théâtre, Greg Germain, ce qui est bien en fait dans le théâtre, c'est de créer une fidélité avec les auteurs et justement aussi de pouvoir voir, découvrir des textes d'auteurs contemporains, parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on devient connu quand on est mort. Vous avez créé vraiment une fidélité, je pense à Kofi Kwaoulé ou Patrick Chamoiseau. C'est vrai que c'est ce que je vous disais, le théâtre a tendance à se reposer sur des auteurs disparus. Comment ça s'est mis en place, en fait, cette fidélité ?
Comment je vais pouvoir dire ça ? Tout à fait naturellement, il y a des auteurs contemporains qui écrivent donc pour nous. J'adore Racine, je pourrais vous citer des pages et des pages de Phèdre.
Des vers et des vers.
J'aime Corneille. Mais ça n'est pas ceux qui l'on représente aujourd'hui. Donc, c'était très important, dans les esthétiques qui existent à Avignon, de pouvoir montrer ces esthétiques caribéennes qui passent forcément par les auteurs contemporains. Puisqu'en Caraïbes ou en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs qu'en Caraïbes, ceux qui sont, j'allais dire, différemment français, on ne fait pas que du théâtre. Parler, on danse, oui. On chante, on joue de la musique. Ce sont toutes ces esthétiques-là qui s'entrechoquent et qui, pour moi, apportent quelque chose à notre théâtre national.
Et en 2002, vous avez inauguré une nouvelle salle où se tiennent des expositions.
Oui, là aussi, il ne fallait pas venir qu'avec la parole, il fallait venir aussi avec l'image, mais l'image de peintre, l'image de photographe, et il y avait un lieu qui était vide devant, et on a décidé tous les ans de faire des expositions d'art plastique, de photos, et c'est aussi un espace de parole, un espace où on peut faire des masterclass, un espace où on peut, convivial, à partir de 18h, offrir le punch aux passants.
Voilà. Et comment est-ce que vous créez justement votre programmation ? C'est au fil des rencontres, au fil des voyages ? Je sais que vous voyagez beaucoup.
Oui, je voyage beaucoup, mais on a aussi des relais précieux, que ce soit en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie. L'année prochaine, j'espère pour la première fois accueillir une pièce polynésienne. Lorsque nous avons accueilli notre première pièce calédonienne en 2001, on m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas dépenser de l'argent ? On ne fait pas de théâtre là-bas ». Et j'ai répondu à
cette... Ce qui est faux, parce que moi j'y suis allé il y a un an et il y a beaucoup de théâtre. Et
j'ai répondu à cette institution, partout où il y a des hommes, il y a du théâtre. Et puis la Nouvelle-Calédonie est toujours présente. Donc c'est un petit peu ce qui nous agite. Alors le problème, c'est que nous n'avons que 6 espaces, ou 7 en fonction de la longueur des pièces, et qu'il faut choisir, et qu'il y a 9-10 départements et territoires d'outre-mer, sans oublier ceux que moi je qualifie comme étant de même misère que moi. Les petites compagnies, celles qui n'ont pas auxquelles on ne veut pas donner leur place dans les scènes nationales, dans les CDN, dans ces panthéons dont je parlais tout à l'heure, et qui, je trouve, sont importantes pour la parole qu'ils représentent, que ce soit le théâtre de Stein, que ce soit des compagnies comme celle de Camara Obscura, celle de Zef qui est à côté de moi, donc je suis obligé de parler de lui. Bon, voilà, ce sont des choses comme ça, mais chaque année, pour l'exemple, chaque année pour l'échange, chaque année pour la transmission, nous essayons de mettre en regard des autres compagnies qui viennent d'ailleurs, une compagnie qui est d'ici, mais je répète, de même misère que nous.
Qu'est-ce qu'on peut espérer, Sylvie Chalaï, justement, quant à cette avancée des mentalités au niveau de la diversité aujourd'hui ?
Déjà qu'un théâtre comme celui de la Chapelle du Verbe Incarné soit un théâtre dans lequel les grands directeurs des grands lieux viennent se ressourcer.
Oui,
pour leur programmation. Ce qu'ils n'ont toujours pas fait depuis 20 ans. Il faut quand même savoir que les directeurs du grand festival du Hymne peut parfois, donc ont parfois dit voilà, qu'ils ne savaient pas exactement, qu'ils étaient ignorants, qu'ils avaient besoin d'être au courant, mais il suffit de venir au théâtre. Voilà, donc déjà, un peu de curiosité, un peu de spontanéité, enfin, je crois que c'est essentiel. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que discuter, témoigner, raconter, c'est très très important, mais il faut agir. Et agir, ça veut dire aussi se lancer, oser aller prendre des pièces dont on ne connaissait pas les auteurs. Voilà. Il y a vraiment une prise en main.
Une prise de risque.
Une prise de risque, oui, bien sûr.
Greg Germain, à part un joyeux anniversaire, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce magnifique théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné ?
Pour le magnifique théâtre, parce que pour moi-même, c'est de jouer le plus longtemps possible encore au golf.
Évidemment.
Pour la Chapelle du Verbe Incarné, mais mon Dieu, que ça continue encore pendant 20 ans, Marie-Pierre Bousquet assurera la suite, puisque moi-même, comme je l'ai dit, j'ai envie d'aller jouer au golf. Non, plus sérieusement, 20 ans, c'est bien, c'est une jeunesse qui s'affirme, j'allais dire, et j'espère que nous allons continuer encore longtemps, cette fois avec un petit peu plus d'aide des institutions, pour pouvoir en faire un vrai lieu, comme disait Sylvie Chalaï tout à l'heure, de ressources, qui pourrait fonctionner à l'année, qui serait une espèce de comme ça soleil qui rayonne, notamment sur le sud de la France. J'en ai parlé avec la ministre des Outre-mer. Il me reste un jour à rencontrer la ministre de la Culture, mais
c'est... Qui vient à point, c'est attendre, comme ça, on dit.
Oui, enfin bref.
Bah, écoutez Greg, je vous souhaite un très bon festival et à très bientôt.
Merci Savannah.